Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez l'Épiplette pour une émission spéciale. En effet, aujourd'hui il n'y a que moi, Laure, pour vous parler. Au sommaire, les enjeux maritimes, avec une conférence qui a eu lieu au lycée le 18 octobre dernier. J'ai eu la chance d'y assister et j'ai rencontré trois personnes très importantes. Je n'en dis pas plus, il est temps de commencer l'émission. L'Épiplette, c'est dans un instant. La mer. Tout le monde l'a déjà vue, la plupart s'y est déjà baignée. Certains l'ont traversée, tandis que d'autres l'ont explorée. C'est un endroit que les personnes associent souvent au plaisir, car tous ceux qui ont déjà eu la chance de naviguer ou de faire de la plongée en gardent un bon souvenir. Ce qui est certain, c'est qu'elle abrite d'immenses mystères que personne n'a encore jamais découverts. Il faut dire que les océans sont grands. Ils couvrent 70% de la surface de la Terre. C'est de là que vient le surnom de la planète bleue. Et aujourd'hui, la mer nous est très utile. Que ce soit pour ses richesses naturelles, le commerce, les câbles sous-marins ou encore sa faune et sa flore, chaque pays qui a la possibilité de pouvoir se tourner vers la mer obtient vite les fruits de son travail. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la France, qui, avec ses 18 000 km de côte, est le deuxième espace maritime le plus grand du monde. Tout d'abord, il faut savoir que, malgré tout cet espace marin, la France se sous-estime. Elle n'utilise pas forcément sa puissance de la bonne manière. Ou en tout cas, elle ne l'utilisait pas. Car depuis quelque temps, la France s'est bel et bien rendue compte de son trésor. Elle a décidé d'en tirer profit. Cela a en tout cas été dit pendant la conférence par les trois grands acteurs du sujet qui nous ont expliqué ce qu'il se passait. Ces trois personnes sont l'amiral Bernard Rogel, ancien chef de l'état-major particulier du président de la République, Madame Pascale Johannin, directrice de la Fondation Robert Schuman, et Monsieur Rolin Couta, représentant de la Fondation de la mer. Ils nous ont donc expliqué que le 21e siècle allait être tournée vers la mer. Rappelons que c'est la plus grande source des richesses actuelles, à condition de la protéger et de faire respecter la loi. C'est pour ça que l'État a mis en place la défense des droits souverains et des intérêts de la nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites. Pour le dire d'une manière plus simple, l'État veut lutter contre la pollution, la pêche illicite et les trafics illégaux. Cette tâche immense est supervisée par la Marine nationale qui assure la sécurité et la protection de l'espace maritime français. Je vous laisse donc écouter l'interview de l'amiral Bernard Rogel qui a dirigé la Marine nationale durant plusieurs années. Combien d'heures avez-vous passé dans le monde sous-marin ?
Eh bien, moi, j'ai passé un certain nombre d'heures dans le monde des sous-mariniers. En réalité, on comptabilise les heures de plongée. Moi, j'en suis à un peu moins de 27 000 passées sous les mers. Je dis toujours avec beaucoup d'amusement, parce que quand je suis rentré dans la marine, c'était pour aller voir le monde. Et en fait, j'ai plus vu le dessous des océans que le dessus. Mais 27 000 heures de plongée, ça représente à peu près 3 ans et demi passés sous l'eau.
Nous savons que la Marine nationale assure la sécurité et la protection de l'espace maritime français, mais quelles sont les autres fonctions de la Marine nationale ?
Les fonctions de la Marine nationale sont très vastes. Ce sont d'abord des fonctions très opérationnelles. C'est d'abord la mission de dissuasion, puisque nous avons en permanence des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sous les océans, quelque part sous les océans. Évidemment, personne ne sait, à part le commandant, où il se trouve. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui assure aujourd'hui la mission de dissuasion est quelque part. Et seul son commandant sait où. À terre, personne ne le sait, pas même le président de la République. Bon, il lui donne des instructions, donc il n'est pas n'importe où, mais en tout cas, il est quelque part sous les océans. Ensuite, il y a les opérations de surveillance et de prévention qui sont importantes. Si je devais donner des exemples très parlants, c'est par exemple les missions que nous avons conduites dans l'océan Indien dans le cadre de la lutte contre la piraterie, une opération européenne qui s'appelait Atalanta. Ce sont des missions de surveillance du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est entre l'Iran et la péninsule arabique et c'est un lieu très important pour le passage des pétroliers. Nous avons également des missions de surveillance en Méditerranée, etc. Donc c'est des missions de protection également. Par exemple, nous avons des dispositifs prépositionnés pour assurer, si le besoin s'en faisait sentir, des évacuations de ressortissants, de nos ressortissants et des ressortissants européens. C'est ce que nous avons fait en 2006 au large du Liban. Pendant la guerre Israël-Liban, nous avons évacué plus de 10 000 ressortissants français et européens en un mois, grâce à nos bateaux amphibies en particulier. Et puis, donc, ça, ce sont les missions très opérationnelles. Il y en a beaucoup d'autres, les déploiements du Charles de Gaulle, les déploiements des sous-marins nucléaires d'attaque. Dernièrement, il y a même un sous-marin nucléaire d'attaque qui a été jusqu'à la mer de Chine, pour vous montrer que nous sommes chez nous partout, grâce à notre zone maritime immense. Et puis il y a les missions de l'action d'État en mer, c'est la lutte contre la surpêche, c'est la lutte contre les pollutions, c'est la lutte contre l'immigration illégale, enfin c'est toutes les luttes auxquelles nous participons avec les autres administrations.
J'ai appris qu'il y avait des femmes dans le monde sous-marin. Et est-ce que ça a créé une sorte de petite révolution ou quelque chose comme ça?
C'est d'abord une grande fierté pour moi, alors que j'étais chef d'état-major de la marine, que j'ai décidé d'autoriser le monde sous-marin aux femmes. Ça a été une révolution parce que jusque-là, c'était plutôt un métier d'homme. Alors, c'est pas qu'on voulait pas voir de femmes, puisque la marine est féminisée depuis bien longtemps déjà. Ça a commencé dans les années 85-90, avec d'abord l'accès des jeunes femmes aux bâtiments de surface. Mais c'était plus compliqué pour les sous-marins puisque ces bâtiments n'avaient pas été bâtis pour avoir des équipages mixtes. Les sous-marins de l'époque, qui ont été construits il y a 30 ans, n'avaient pas ces capacités-là. Donc on a commencé par autoriser les femmes à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui sont les plus gros bâtiments que nous avons, c'est qu'ils font à peu près 12 000 tonnes, parce qu'on avait de la place pour justement arriver à organiser cette mixité à bord. Et puis le sous-marin Suffren, qui est la nouvelle classe des sous-marins nucléaires d'attaque français de type Barracuda, qui est en train de terminer ses essais à la mer avant d'être admis au service actif, a lui une partie de l'habitat qui sera réservée aux femmes. On y est venu, ça a été une révolution, oui, parce que c'était encore une fois plutôt un métier d'homme, mais en tout cas les premières expériences prouvent que ça se passe très bien, comme d'ailleurs la féminisation dans la marine nationale se passe excellemment bien.
En dernière question, c'est quelles sont les valeurs que défend la marine française où les élèves du LFB pourraient se retrouver ?
On a une devise dans la marine qui est honneur, patrie, valeur, discipline, qui est inscrite sur tous les bâtiments de la marine nationale, c'est-à-dire que les équipages ont ces quatre valeurs en permanence sous les yeux. Mais je crois qu'au-delà de ça, il y a deux valeurs essentielles qui sont partagées par l'ensemble des marins. Le premier, c'est que sur un bâtiment, on travaille avec les autres, pour les autres et par les autres. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble et c'est vraiment important, c'est cette notion d'équipage. Si on n'avait que des individualités à bord d'un bâtiment de la Marine nationale, ça ne marcherait pas. C'est vraiment cet esprit d'équipage, c'est-à-dire qu'on travaille en permanence pour les autres avec un objectif commun qui est la mission qui nous a été assignée. Et ça, c'est tout à fait important. Cet esprit d'équipage, c'est vraiment très marquant de la Marine nationale. On est toujours plus fort quand on travaille ensemble que quand on travaille seul. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et la deuxième valeur qui a été évoquée pendant la conférence, c'est la solidarité en mer. Je crois que c'est très important. On ne laisse jamais quelqu'un en détresse en mer. Parce que d'abord, un jour, ça pourrait nous arriver. On serait content que quelqu'un vienne nous chercher. En tout cas, c'est cette solidarité des gens de mer, ce n'est pas une légende. Et on l'exerce, évidemment, avec les bateaux de la Marine nationale et ses équipages, de la même manière que font la Société nationale des sauveteurs en mer ou d'autres organismes plus spécialisés. Voilà les deux valeurs principales, en tout cas, esprit d'équipage et solidarité. Et puis, il y a peut-être une troisième valeur qui est celle d'aller au bout de sa mission. Je crois que c'est important, j'avais coutume de dire à mes marins, hommes et femmes, je leur disais, vous savez, en mer, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas s'avouer vaincu, parce que si on s'avoue vaincu et qu'on s'arrête et qu'on s'assoit et qu'on pleure, on est mort. Parce que la mer ne nous pardonnera pas ça. Donc soyez courageux, soyez volontaires, soyez dynamiques, et puis allez au bout des choses que vous voulez faire. Et ça, c'est sans doute une valeur extrêmement importante qui peut être reproduite à terre de manière très simple.
Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, protéger les océans est une tâche immense, et une personne ne peut pas faire ce travail seule. J'ai donc eu la chance de pouvoir interviewer les représentants de la Fondation Robert Schuman et de la Fondation de la Mer, qui, chacune à leur manière, travaillent sur le thème des enjeux maritimes. Voici au micro Madame Joannin.
Comment, dans votre fondation qui œuvre en faveur de la construction européenne, le thème des enjeux maritimes est-il de plus en plus développé ?
Il est de plus en plus développé parce que d'abord, il y a cette priorité qu'a faite la commission présidée par Mme von der Leyen de faire un pacte vert. Donc, elle pensait à une dimension environnementale, mais cette dimension environnementale, ce n'est pas que du vert, il y a beaucoup de bleu. Ça fait partie en effet du pacte vert, cette économie bleue, puisqu'on l'a rappelé, 70% de notre planète est constituée d'océans, et que donc si on pense en effet environnement, il ne s'agit pas seulement de parler d'éoliennes ou de panneaux solaires, mais également de qu'est-ce qu'on fait en mer pour préserver les océans, les questions environnementales, une économie qui permet en effet de continuer à faire qu'on va d'un point à un autre du globe par la mer sans polluer, avec en effet des bateaux, j'allais dire, plus économes en énergie, la diffusion peut-être de nouveaux modes de propulsion, la prise en compte de chacun que, à notre niveau, individus, associations, collectivités, groupes, entreprises, etc., on peut apporter notre contribution. Et l'Europe est échappotée de ça pour qu'il y ait une coordination entre chacun. Et puis ensuite peser davantage pour aller discuter avec nos d'autres partenaires internationaux dans le cadre des organisations internationales pour qu'on se mette d'accord sur, par exemple, la neutralité carbone. Ça peut avoir un effet sur la mer ou sur des objets plus maritimes. Le président de la République française a fait des annonces. Est-ce que ça va être suivi? Parce que, en effet, on a un statut pour l'Antarctique, on n'a pas de statut pour l'Arctique et l'Europe est un État riverain avec le Danemark. Et puis sur la mer, à côté de la politique maritime intégrée de l'Union, une politique qui soit développée au niveau international. Mais pour ça, il faut que l'Europe soit unie et forte pour peser davantage avec les autres, pour définir une solution qui soit la meilleure pour l'ensemble des habitants de la planète.
Merci beaucoup pour cette réponse.
Terminons par ma rencontre avec M. Kuta de la Fondation de la mer.
La Fondation de la mer est au service de la protection et de l'étude de l'océan, mais la tâche n'est-elle parfois pas trop grande par rapport aux dangers ?
C'est une bonne question parce que quand on parle de la mer et de l'océan, c'est tellement vaste qu'il faut savoir ne pas trop se disperser. C'est pour ça qu'on a choisi trois actions majeures. Connaître, donc trouver des scientifiques et les aider. Donc on sélectionne, on reçoit une centaine de propositions de bourses, on en sélectionne entre 5 et 10 chaque année, avec un comité scientifique, et on aide ces bourses-là. Impliqué, on a déjà trois actions importantes, qui sont notamment les classes, des kits pédagogiques qui sont distribués à beaucoup de classes françaises, et francophones d'ailleurs, et puis protéger autour déjà trois programmes très importants. Un geste pour la mer, pour ramasser les plastiques, pour lutter contre la pollution plastique. SOS Corail, pour protéger les récifs coralliens, les herbiers et les mangroves. Et puis enfin, impliquer les entreprises, très important. Le programme Océan Approved, pour aider les entreprises à se préoccuper de l'océan à travers l'ODD 14, l'objectif de développement durable 14 des Nations Unies. Voilà.
Merci beaucoup Merci. Pour vos réponses.
Merci beaucoup.
C'est déjà la fin de l'émission. Mais ne vous inquiétez pas, car les pipelettes seront de retour le 19 novembre prochain. En attendant, vous pouvez toujours aller écouter nos anciens programmes sur notre site www.radiolfb.net. Vous pourrez ainsi vous abonner, laisser des commentaires et télécharger notre programme. Je vous laisse avec La mer par Charles Trenet.
La mer. On voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs,
et ses maisons rouillées. La mer les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie.